Chapitre 25. La foire de Brebeuf. Le premier vendredi d'octobre commence la grande foire de Brebeuf qui dure pendant 8 jours. C'est la fête de l'automne. On s'y prépare activement. On abat des bêtes, on cuit du pain dans chaque maison. Les tables restent servies toute la journée. Les domestiques reçoivent double ration d'eau-de-vie et le travail chôme. Les nouveaux vêtements d'hiver sont mis pour la première fois. Les serviteurs et les journaliers, qui ont alors touché leur gage, discutent longuement sur ce qu'ils vont acheter à la foire. Des gens venus de loin s'avancent sur les routes, le havresac au dos et le bâton en main. Beaucoup d'entre eux amènent leurs bêtes, réduits par la misère à les vendre au marché. De jeunes taureaux et des chèvres, qui refusent d'avancer et se rebiffent, les jambes raides, barrent souvent le chemin. Le premier jour de la foire, quel fourmillement sur les pentes de Brebeuf et au milieu du bourg! On a dressé des boutiques où les marchands des villes étalent leurs marchandises. Tandis que les dalécarliens et les paysans de la Vestrogothie empilent leurs pièces de toile sur des rangées de planches. Devant les échoppes, les jeunes gens essayent de persuader à leurs bonnes amies d'accepter le livre de cantiques et le fichu de soie. Et les parents choisissent des cadeaux pour les enfants qu'on a laissés au logis. Tous ceux qui n'ont pas été forcés de garder la maison ou de surveiller les bêtes arrivent à la foire. Voici les cavaliers d'Aigbeuf. Et voilà les paysans de Nounougarde, les maquignons de Norvège, des Finnois du Nord et des Bohémiens. On voyait bien que la misère régnait dans le pays. Les affaires ne marchaient guère qu'à l'enclos où l'on vendait les bêtes. Et pourtant, comme toujours, la foire était gaie. Deux petits verres d'eau-de-vie remontent les courages. Mais ce n'est pas l'eau-de-vie seule qui donne de l'entrain. Quand les habitants des fermes solitaires se retrouvent dans la vie tumultueuse du champ de foire, l'ivresse du bruit leur fait tourner la tête et semble les affoler. On s'empresse, on court, on cherche ses parents et ses amis. On les entraîne vers les charrettes pour qu'ils goûtent les provisions dont on les a remplies. Par moments, cette mer bruissante s'engouffre en un tourbillon qui décrit ses vastes cercles autour d'on ne sait quoi. Les policiers s'y engagent et y font leur trouée afin d'apaiser une rixe ou de redresser une charrette renversée. Et le moment d'après, un nouveau tourbillon se reforme autour d'un marchand qui taquine et harcèle une jeune fille, prompte à la riposte. Mais vers midi, une grande bagarre éclata. Les paysans s'étaient mis en tête que les marchands de la Vestrogothie employaient des zones trop courtes. Et l'on en vint vite au coup. Les dalécarliens se joignirent aux Vestrégots. Les cavaliers voulurent s'interposer. La mêlée devint générale. Le plus forcené des combattants était le valet de Saint-Rame, le rude Mans. Il avait terrassé un de ses adversaires et frappé à tour de bras. Les autres essayaient de lui faire lâcher prise, quand soudain, arrachant les pièces de toile d'un étalage, Mans s'empara de la planche qui les supportait. C'était une planche large et haute, d'un bois solide et dur. Il la brandit. Ce même Mans avait, étant à la prison de Philippstadt, enfoncé un mur à coups de pied. On l'avait vu retirer une barque de l'eau et la charger sur ses épaules. Quand il souleva au-dessus des têtes cette énorme planche, toute la foule recula et s'enfuit épouvantée. Mais Mans la poursuivit. Maintenant qu'il avait une bonne arme dans les mains, il ne voyait plus autour de lui ni amis ni ennemis, rien que des gens à battre. Ce fut une panique. Les femmes, qui conduisaient ou portaient des enfants, ne pouvaient fuir, arrêtées par les échoppes et les charrettes et les vaches et les bœufs, que les clameurs exaspéraient et jetaient au milieu de la route. Un petit groupe d'entre elles se trouva pris dans une impasse. Ce fut là que le géant se précipita. Il croyait y voir un de ses adversaires, un gaillard de la Vestrogothie, et il leva son énorme massue. Pâle d'angoisse et frissonnante, les femmes se courbèrent sous l'horrible menace. Mais quand la planche s'abattit, un homme avait tendu les bras et rompu la force du cou. Cet homme, au lieu de s'accroupir, s'était redressé au-dessus du groupe. Et grâce à lui, les femmes et les enfants n'avaient pas été écrasés. Et cet homme gisait sans connaissance sur le sol. Mans ne tenta même pas de se sauver. Il avait rencontré le regard de sa victime au moment où la planche s'abattait, et ce regard l'avait paralysé. Il n'offrait point de résistance. Il se laissa lier et emmener. Mais en un clin d'œil, le bruit courut à travers la foire que Mans venait de tuer le capitaine Lennart qui s'était sacrifié pour sauver les femmes et les enfants. Il se fit un grand silence sur la place où tout à l'heure la vie bouillonnait. Les ventes s'arrêtèrent, les rixes cessèrent. Les amis, réunis autour des paniers de provisions, suspendirent leur petite fête, et les saltimbanques appelèrent vainement les spectateurs. Une foule muette s'était pressée autour du capitaine qui n'avait pas repris connaissance. Son crâne semblait fracassé. Cependant, il respirait encore. Deux hommes le soulevèrent avec précaution et le placèrent sur la planche que le géant avait laissée tomber. « Où le porterons-nous » demandèrent-ils. « Chez lui !» répondit une voix dure. Oui, portez-le chez lui pour que sa tête blessée qui a reposé sur les grabats de la prison et sur la paille des granges puisse enfin dormir sur un doux oreiller. Il a erré comme un exilé, mais il aspirait toujours à ce foyer dont il croyait que Dieu lui avait fermé les portes. Cette fois, il ne s'achemina pas vers son logis avec une figure de bandit, escorté de compagnons ivres et trébuchants. Il était suivi d'un peuple en deuil, d'un peuple dont il avait habité les pauvres cabanes et dont il avait essayé d'alléger les souffrances. Six hommes avaient soulevé la planche sur leurs épaules et s'étaient mis en route. Où ils passaient, la foule s'écartait. Les hommes découvraient la tête et les femmes faisaient une profonde révérence, comme à l'église, lorsqu'on prononce le nom du Seigneur. Dès qu'un porteur était fatigué, un autre s'approchait silencieusement et glissait son épaule sous la planche funèbre. Les cavaliers s'étaient joints au cortège qui grandissait toujours. Le champ de foire était déserté. Les cadeaux pour les petits qui étaient restés à la maison ne furent jamais achetés. On ne marchanda plus les livres de cantiques, et le fichu de soie qui avait lui aux yeux de la jeune fille fut rejeté sur le comptoir. Tous voulaient accompagner le capitaine Lennart. Lorsque le cortège arriva à Helgesutter, les pointes de Bärenkreuz heurtèrent, comme 2 mois plus tôt, la porte de la demeure muette. Les domestiques étaient allés à la foire. La capitaine gardait la maison. Ce fut elle qui ouvrit, et elle demanda, comme elle l'avait déjà demandé une fois, « Que voulez-vous? » Et le colonel répondit, « Nous vous ramenons votre mari. » Le colonel se dresse devant elle, raide et sombre. Derrière lui, une foule immense regarde. La capitaine aperçoit son mari étendu sur le brancard improvisé et porte la main à son cœur. Voilà bien son visage, murmura-t-elle. Et sans rien demander de plus, elle tira les verrous, ouvrit les 2 battants et montra le chemin de la chambre. Et pour la dernière fois, le capitaine Lennart se trouva couché sur de la belle toile blanche. Vit-il? Demanda-t-elle. Oui, répondit le colonel. Y a-t-il de l'espoir? Non, aucun. Tout à coup, une pensée frappa la capitaine. Est-ce lui que tous ces gens la pleurent? Oui. Pourquoi? Il s'est laissé tuer pour sauver des femmes et des enfants. Elle resta un moment silencieuse, puis elle reprit. Quel visage avait-il donc, capitaine, lorsqu'il revint avec vous il y a 2 mois? Le colonel tressaillit. Justa Berling s'était amusé à le peindre, dit-il. C'est donc à cause d'une méchante farce des cavaliers que je lui ai fermé ma maison? Comment répondrez-vous de ce que vous avez fait? Le colonel haussa les épaules. Nous avons à répondre de tant de choses, murmura-t-il. Je ne crois pas que vous ayez jamais commis rien de pire. Aussi, chemin ne m'a-t-il jamais paru plus dur que celui de Helgesutter aujourd'hui. Alors la capitaine éleva la voix. S'il y a ici des cavaliers, je les prie de sortir. Il m'est trop pénible de les voir au lit de mort de mon mari. Le colonel sortit, suivi des autres cavaliers. Le peuple s'écarta au passage de Justa Berling et de ce petit groupe d'hommes humiliés. Quand ils furent partis, la capitaine se tourna vers les assistants. Qui parmi vous, dit-elle, peut me raconter ce qu'a fait mon mari depuis que, dans l'épouvante et la dureté de mon cœur, je lui ai fermé ma porte? Alors les personnes présentes commencèrent à porter témoignage en faveur de l'agonisant. Les unes avaient été guéries par lui, les autres consolées. Il a réveillé dans tous les cœurs l'espérance et la foi. Des hommes qui n'ont jamais lu d'autre livre que la Bible parlent avec des phrases de patriarches et des images de Job. La capitaine, assise au chevet du mourant, écoute ses voix. Le crépuscule descend et le soir. Et de la foule qui s'entasse dans la cour se détache par moments un humble témoin qui monte et apporte lui aussi son témoignage. Et quand il revient, « Que dit-elle, la sévère dame de Helgesutter ?» lui demande-t-on. Elle rayonne comme une reine. Elle a étendu près du lit les vêtements qu'elle avait tissés pour son mari. Tout à coup, un grand silence se fait. Personne n'a rien dit, mais tous le savent. Le capitaine Lennart meurt. Il a rouvert les yeux, il a vu sa femme, son foyer, et il a souri. Et dans ce sourire, il a rendu l'âme. Une voix entonne le psaume des morts, et toutes les voix se joignent à cette voix, et l'hymne funèbre s'élève dans le silence de la nuit.